Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et pour une dernière fois, j'animerai cette émission cette semaine, mais avec moi et mon collègue et mon ami, ben ex-collègue parce que je ne serai plus journaliste automobile, mais mon ami quand même, Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut mon cher.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Ouais, ça va très bien. Donc tu vas passer de la case ami et collègue à ami.
C'est ça, c'est bon. Quand même, je dis en autant. C'est le plus important, je dois dire.
Ben oui, ah oui,
c'est la partie la plus importante. Mais je trouve ça vraiment. Je comprends. Je pense que ça vaudrait la peine que tu expliques aux gens, cependant, c'est pourquoi la décision. Là. Parce qu'on s'est fait poser la question. J'espère que c'est ta décision, comme quoi je t'avais mis dehors.
Oui, ouais, non, non. C'est ma décision. C'est moi qui ai décidé que c'était que ça suffisait un peu. Là. Je le cacherai pas, là, ça a pas été toujours joyeux le fait d'être bon. Je le mets toujours entre parenthèses, journaliste automobile, parce que bon, j'ai juste le podcast, j'ai jamais été vraiment pris au sérieux. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont super gentils quand même. Là, je pense à Nissan, à Jaguar, qui m'ont quand même invité à des événements, puis des choses comme ça. Mais Marc, comme vous voyez, Marc est souvent invité à des événements, à des lancements. Moi, c'est extrêmement rare. J'ai pas eu aucun événement cette année. Depuis le début de l'année, absolument rien. Le salon de l'auto, c'est normal, mais c'est moi qui demande d'y aller à chaque année. Puis après ça, un coup, t'es rentré dans l'habitude d'être là, ils t'invitent à chaque année. Là. Mais pour le reste, des événements, des lancements, des peu importe, même que ça soit à Montréal, que ça coûte pas de chambre d'hôtel, les constructeurs m'invitent pas. C'est un peu frustrant d'être toujours laissé de côté. Mais ce qui est encore plus frustrant, c'est que dernièrement, j'ai même des problèmes à réserver des voitures. Et malheureusement, quand une des personnes qui est en charge de la majorité de la flotte de presse de Montréal commence à pas répondre à tes courriels, ben c'est difficile de réserver des autos. Donc, et il y a d'autres raisons aussi, je veux dire, je commence à avoir moins de temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie présentement côté personnel et professionnel, j'ai beaucoup moins de temps pour faire le podcast, mais est-ce que ça va me manquer? Je suis certain que ça va me manquer. J'ai pas parti un podcast en 2013 sur l'automobile en me disant j'aime pas ça, mais je vais le faire pareil. J'ai toujours fait ça par passion. Moi et Marc, on fait 0$, 0 sous à faire ce podcast-là. C'est vraiment juste par la passion. Puis, ce qui a été aussi un petit peu un point tournant, c'est que vu que je fais 0$ avec ça, ben j'ai commencé à vraiment, vraiment aimer conduire ma livre pour aller travailler. Parce que, tu sais, ça paraît pas, là, mais on fait l'essai d'un... Ben, Marc en parle souvent, puis moi aussi j'en parle quand c'est ce genre de véhicule-là, mais j'essaie un F-150 pendant une semaine, là, ça me coûte 100$ de gaz. Là.
Oui.
Je peux conduire ma livre, puis ça me coûte peut-être, je sais pas, au moins 5$, 10$ d'électricité dans ma semaine pour faire mon aller-retour. 100$ de gaz, 10$ d'électricité, je vais prendre l'électricité, tu sais. Fait qu'il y a des choses comme ça, mais oui, c'est par passion. Des fois, on aime ça conduire des autos. J'ai adoré conduire la Nissan GT-R l'année passée, même si elle aussi, elle m'a coûté comme pas mal de gaz. Même si je suis 3 jours, j'ai fait quand même pas mal de millages avec. Ça a coûté cher de gaz, mais c'est correct. Il y a des voitures comme ça où, regarde, on va le dépenser parce qu'on aime conduire la voiture. Les Mustang, des choses comme ça, je vais les conduire, je vais prendre le V8, je vais la payer l'essence pour le faire. Mais à un moment donné, c'est que ça vient que ça fait plus nécessairement de sens de toujours dépenser de l'argent pour ça et d'avoir rien qui revient. Ça allait bien, à un moment donné, j'écrivais pour Kijiji, je faisais de l'argent, donc c'est correct. Donc ça m'aidait à payer un petit peu mes dépenses, même si j'ai jamais fait une fortune à écrire pour Kijiji. J'ai presque eu un contrat pour écrire pour le journal Métro, mais il y a toujours de la magouille à l'arrière qui se passe, qui a fait que j'ai... Même si je m'étais fait dire que je commençais à écrire pour eux autres, une semaine après, je me suis fait dire « Ah non, le contrat était donné à quelqu'un d'autre. » C'est pas un monde qui est facile, puis c'est pas nécessairement un monde où j'ai vraiment ma place, parce que je peux pas donner mon 100%. J'ai une job de jour, j'ai une famille à faire vivre, je peux pas prendre juste la chance de dire « Bon ben regarde, je vais m'investir 100% là-dedans, puis advienne que pourra. » Je peux juste pas faire ça. Fait qu'à un moment donné dans la vie, il faut faire des choix. Oui, j'ai un podcast techno, j'ai des choses, mais le podcast techno me coûte rien à faire. Je veux dire, je vais voir un film, j'aurais été voir le film pareil, je joue à un jeu vidéo, j'aurais joué au jeu vidéo quand même, tu sais. Mais pour, tu sais, les voitures, puis le fait que T'sais, oui, je vais parler d'un essai, mais je peux pas vous parler nécessairement d'un lancement. C'est drôle à dire, puis j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour. J'avais plus d'invitations à des lancements et des événements avant de devenir journaliste à l'AJAC. C'est drôle, hein? J'ai travaillé pendant des années pour essayer de rentrer à l'AJAC, puis la journée que j'ai rentré à l'AJAC, c'est la journée que j'ai commencé à avoir le moins d'invitations. Dans le temps que j'étais comme blogueur, puis juste, je faisais juste le podcast, puis je n'étais pas calculé comme un journaliste, j'étais calculé comme un blogueur. J'avais des invitations partout. J'ai été à des lancements de Volkswagen, des voyages payés à Toronto. J'étais allé à Détroit avec Ford. J'ai fait, puis à un moment donné, je suis tombé journaliste, puis pouf, plus rien. Juste une invitation ici et là pour certaines choses, là. Mais tu sais, Hyundai a fait un lancement pour l'accent à Montréal, ou a fait un accent, lancement pour d'autres choses à Montréal. Je n'ai jamais entendu parler. Je vous parle pas, tu sais, je vous demande pas de me payer une chambre d'hôtel à Vancouver ou aux États-Unis pendant une semaine. Je vais conduire, puis je vais revenir chez nous le soir. Tu sais, même pas. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, regarde, personne pense à moi. Puis c'est correct, je m'attends pas à ce que, parce que le petit podcast que j'ai parti en 2013, j'aime ça le faire, puis c'est difficile à savoir combien d'auditeurs qu'on a, puis tout ça, parce que les radios nous disent pas combien d'auditeurs eux ont quand on diffuse. On reçoit pas d'argent des radios non plus. Je pense pas que les radios web font une tonne d'argent non plus. Mais tu sais, ça serait le fun d'avoir une petite ristourne sur les publicités qu'ils mettent pendant les émissions, des choses comme ça. Mais tu sais, on n'a rien de ça. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, dépenser pour dépenser, même si c'est ma passion, je vais toujours aimer les voitures, là. Quelqu'un qui m'a dit, tu sais, faudrait pas que tu arrêtes d'aimer les voitures. Je dis, regarde, je lisais le guide de l'auto, j'avais 12 ans, là.
Ah oui.
Je pense que la passion des autos va toujours être là. Je vais toujours aimer une belle nouvelle voiture. Je vais toujours triper sur l'automobile. Je serai juste plus journaliste. Mais est-ce que je vais pouvoir dire à un moment donné dans ma vie, tu sais, ben, est-ce que j'ai fait ce que je voulais? J'ai toujours rêvé d'être journaliste automobile. Ben, je l'ai été pendant 6 ans. Puis ça a été un beau trip. Des hauts et des bas. Il y a eu des super beaux hauts. Aller faire le Camp 4 avec toi, Marc, ça a été une joie. Ça a été merveilleux. Nissan m'avait invité pour aller à la Coupe Micra une fin de semaine. J'avais trippé sur le site, parler aux pilotes, puis à tout ça, j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir. Fait que conduire la Nissan GT-R, je reviens avec ça, mais ça a été vraiment la voiture la plus incroyable que j'ai eu la main dessus. Tu sais, fait qu'il y a des choses super le fun. Je regrette-tu des choses? Ben oui, j'aurais aimé ça avoir la F-Type de Jaguar. Ça a l'air que c'était possible cette année, mais ça a l'air que quand j'ai voulu la réserver, ben j'ai jamais eu de réponse. Fait que ça va passer en dessous du tapis, puis je l'aurais juste jamais conduit. Mais tu sais, c'est pas grave, j'ai pas de regrets. Est-ce qu'à un moment donné, je vais m'ennuyer de ça? C'est possible, on verra. Mais dans la vie, on fait des choix, puis il faut les assumer.
Ouais, on va quand même dire que c'est sûr que tu auras l'occasion peut-être d'essayer encore des véhicules, puis que c'est clair que tu reviens sur le podcast quand tu veux, là. Moi, je vais le continuer,
Oui.
mais c'est sûr que tu reviens sur le podcast quand tu veux, là.
J'ai une dernière voiture de réservée. Cette semaine, je vais vous parler de la Leaf Plus. Et puis, au mois d'août, la semaine du 12 août, j'ai le Kia Niro 100% électrique. J'ai demandé la Soul électrique aussi, mais j'ai pas de réponse encore. Là, on va voir si ça va aussi se faire. Théoriquement, ça devrait être ma ou mes deux dernières voitures. Je vais aller avec des voitures électriques, parce que je vais les essayer parce que je suis sur le marché pour changer ma Leaf à un moment donné. Fait que je veux les essayer pendant que je peux. Et puis après ça, ben, on verra. Mais oui, je vais revenir au mois d'août, au moins une fois ou deux, pour parler de voitures. Après ça, ben, on verra là, ce que ça donnera. Comme je l'ai dit, je garde ça parce que c'est personnel, mais il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans un avenir rapproché dans ma vie. Fait que, tu sais, ça peut être difficile pour moi, même si je continuerais d'aller chercher les voitures de presse où ils sont, parce que je serais peut-être nécessairement pas proche de là quand va falloir. Là, on verra. Donc, on va continuer, Marc. C'est pas un show sur moi, c'est un show sur l'automobile. On avait pensé faire nos essais, mais là, ça fait 9 minutes que je jase puis je parle de moi. On fait-tu les
Ouais.
nouvelles, puis on fera nos essais dans le deuxième bloc?
Ouais, je veux quand même avant en profiter pour te remercier, Luc. C'est toi qui as parti le podcast. Ça s'appelait Podcast Auto pour ceux qui le suivaient au début. Ça fait plusieurs années que ça roule, tu l'as dit, depuis 2013. S'il est là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je l'ai dit, moi, je vais le continuer tout seul avec essayer d'avoir des invités. Toi, évidemment, le plus souvent possible. S'il n'y avait pas eu, si tu n'avais pas été là, il n'y aurait pas ce podcast-là qui a été un des premiers, sinon le premier podcast automobile au Québec.
Je sais pas,
Depuis,
hein.
il
Je sais pas.
y en a. Imaginez.
Je pense que oui, mais je me disais, je sais que le guide de l'auto en a eu un à un moment donné, mais ils ont arrêté parce qu'eux autres, si ça ne fait pas d'argent, ça peut pas fonctionner, là. Mais
C'est ça,
je sais pas.
mais c'est beaucoup plus tard.
Ouais, ça se
C'est
peut.
beaucoup plus tard. Parce qu'en 2013, moi, je travaillais dans ce milieu-là aussi, puis j'ai jamais vu d'autres podcasts. On en avait fait un, nous. On faisait un bulletin de nouvelles à une certaine époque, quand j'étais chez Auto 1-2-3 avec Bertrand Godin. Mais ça a duré quelques mois à peine. Alors, c'est vraiment le premier podcast qui avait cette forme-là, automobile. Donc, il faut souligner ça. J'invite d'ailleurs les gens, tout de suite à profiter de notre page Facebook, Ça roule radio. Envoyez un message à Luc. Dites-lui à quel point vous avez apprécié son passage dans l'émission. Je pense que c'est bien mérité. Moi, je serais pas là s'il n'était pas là. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner et de souligner l'effort que tu as fait et de dire que tu vas continuer de collaborer quand même quand tu auras une chance, ça, c'est certain.
Bon, une fois de temps en temps, quand ça me démangera trop, je viendrai faire un tour.
Là, si ça te démange, excuse-moi, c'est pas un podcast faut que tu fasses, faut avoir le médecin, mais c'est une autre affaire.
On verra ça. Donc, Marc, il y a quelques nouvelles d'importance. Il y a Ford et Volkswagen qui ont fait une annonce ce matin, là, dont tu voulais nous parler.
Ouais, ben en fait, on le sait depuis longtemps, Ford et Volkswagen avaient décidé qu'ils étaient pour s'associer dans le développement de certains véhicules, mais ce matin, ils ont confirmé la nature de cette entente-là. C'est une entente qui est très, très, très importante. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont collaborer sur le développement des voitures électriques et des voitures autonomes. Ils vont partager les coûts au niveau mondial. On dit donc que Volkswagen va investir 2,6 milliards de dollars dans la compagnie Argo, intelligence artificielle de Ford, ce qui veut dire que ça va être une compagnie qui vaut maintenant 7 milliards de dollars quand même. C'est pas rien. Et il y a aussi 1 milliard de dollars là, qui vient avec Audi pour le 1,6 milliard qui a été investi dans le Autonomous Intelligent Driving, le programme de Audi au niveau de ça. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que, bon, les deux compagnies disent, écoutez, on continue d'être des compétiteurs, on continue d'être un contre l'autre au niveau du marché commercial, on continue de vouloir se battre, mais ça coûte extrêmement cher à développer des voitures électriques. Ça coûte extrêmement cher développer des voitures autonomes. Donc, ils veulent partager tout ça. On sait déjà que Volkswagen avait décidé de dépenser 34 milliards. On parle toujours d'argent US, hein, en passant.
OK.
34 milliards au niveau des voitures électriques au cours des prochaines années. Donc, ça fait partie de ça. Et Ford qui dit qu'ils vont produire des voitures à partir de 2023. On espère avoir 600 000 véhicules électriques en Europe basés sur une plateforme de Volkswagen au cours des 6 prochaines années pour Ford. Donc, c'est un développement énorme, évidemment, à ce niveau-là, qui a été confirmé, qui a été annoncé, officialisé, ce matin. On savait que ça existait, mais c'est quand même extrêmement important.
Ouais, puis je pense que c'est par là que l'avenir du monde de l'automobile va passer. C'est qu'à un moment donné, ça coûte cher juste développer une voiture. On
Oui.
enlève l'électrique, on enlève les voitures autonomes. Juste développer une voiture, développer une plateforme, développer des moteurs, développer des transmissions, ça coûte extrêmement cher. Donc, à un moment donné, c'est beau. Oui, on est compétiteurs, tout ça, mais on peut quand même partager certaines technologies pour baisser les coûts. Puis le consommateur va gagner au bout de la ligne parce que en partageant le coût de développement, ben on va être capable de vendre les voitures peut-être un peu moins cher parce que Volkswagen et Ford vont avoir partagé les coûts sur une voiture. C'est comme l'entente Mazda-Toyota. C'est comme il y a plusieurs constructeurs qui ont des
Ben,
ententes ensemble, là,
Toyota est en
Subaru-Toyota et
train,
tout ça, là.
c'est ça, c'est ce que je peux te dire. Toyota est en train de s'associer avec à peu près tout le monde, à tous les niveaux, tu l'as dit. Subaru-Toyota, c'est un peu particulier parce que Toyota est propriétaire de 25%
De
de
Subaru.
Subaru.
Ouais.
Donc là, évidemment, c'est une entente particulière, mais rappelle-toi, bon, tu parlais de Mazda-Toyota au niveau de la Mazda 2, tu parles de Toyota-BMW avec la Supra dont on a parlé récemment.
C'est
Tu sais,
ça.
là, il y en a beaucoup, là. Et ils n'ont pas le choix parce que les investissements sont énormes. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, effectivement. On verra ce que ça va donner dans l'histoire. La question maintenant, c'est qu'on sait que Volkswagen veut aussi amener un petit VUS en Amérique et un camion pick-up. Est-ce qu'ils vont le développer en collaboration avec Ford? Il n'en est pas fait mention nulle part. Je sais que ça a fait partie des rumeurs au cours des derniers mois, dernières années. On verra ce que ça va donner pour la suite.
Ouais, mais Chrysler a déjà acheté la caravane et l'a rebadgée pour une Volkswagen. Fait que Tout,
c'est vrai.
Tout peut se faire. Je l'ai vu une l'autre jour, une Volkswagen routant sa route. Je me suis dit, hey, ça ressemble pas mal à une caravane. Hein? Ben, c'est parce que c'est une caravane.
Exactement.
C'est comme le Tribute puis l'Escape dans le temps. C'était la même voiture, même camion. Ben, on mettait juste des badges différentes dessus.
Le Ranger puis le B2000 de Mazda.
Exactement. Il y avait beaucoup d'entente déjà dans le temps. Mazda faisait la motorisation, je me rappelle, pour la Ford Escort aussi. C'était un moteur Mazda qu'il y avait là-dedans. Donc, ça fait des années qu'il y a des ententes entre des constructeurs. On ne le sait pas nécessairement toujours, mais ça existe depuis belle lurette, puis ça va continuer à exister parce que le futur d'automobile passe par là. C'est pas vrai qu'on peut développer des choses chacun de notre côté puis penser faire de l'argent à un moment donné. C'est impossible. Donc, il faut s'associer puis il faut baisser les coûts.
Exactement.
C'est à peu près ça. Super. T'as-tu une autre nouvelle pour nous?
Ouais, ben, elle va être rapide, hein. Toujours concernant Volkswagen. Tu peux pleurer, c'est maintenant fini. La Volkswagen Beetle n'existe plus. La dernière édition de la Volkswagen Beetle, la dernière unité de la Volkswagen Beetle est sortie de l'usine cette semaine. C'est une page d'histoire littéralement qui se tourne là, parce que
Première voiture de Volkswagen.
Oui, c'est la première voiture de Volkswagen qui était la voiture du peuple. Mm-hmm. Au Mexique, où elle était assemblée jusqu'à récemment, là, mm-hmm. on dit que 80% des gens ont conduit, possédé ou utilisé une Beetle à un moment ou à un autre.
Ouais. Je me demande juste si c'est pas de la retirer pour la ramener dans une couple d'années encore, parce qu'il avait fait ça avec l'autre, là. On l'avait, ouais, même la New Beetle, on l'avait arrêté, puis là, on l'a recommencé un peu plus tard. Fait que je me demande si ça reviendra pas un jour, mais y a-tu encore un futur pour cette voiture-là?
Ben, moi, je pense que ça sera pas sous la forme de la Beetle. Volkswagen prend définitivement un virage électrique et va partager des plateformes. Alors, je pense qu'il y aura une voiture de ce format-là, mais ça sera définitivement pas la Beetle.
OK. C'est dommage parce que c'est une voiture qui était quand même jolie. C'est la dernière convertible chez Volkswagen? Il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Il y avait l'Eos est disparu. Il y avait une Golf convertible. À un moment donné, la Golf convertible n'existe plus. Mais est-ce que peut-être Volkswagen va ramener la Golf convertible vu qu'ils n'ont plus de convertible dans le marché? Est-ce qu'il y a encore un marché pour les convertibles? C'est toutes des questions à se poser.
Il n'y en a plus de convertibles. Hein? On va dire les vraies affaires. Là. Regarde, au-delà de Volkswagen, là, le nombre de cabriolets est assez rare. Là. Ben, la Mustang, t'as la Camaro.
T'en as chez BMW, t'en as chez Audi, t'en as chez Mercedes. Mais
chez Ford, t'as la Mustang.
Ouais, c'est tout.
Chez GM, t'as la Camaro.
C'est tout.
T'as la MX-5 chez Mazda.
Ouais.
Bon, Subaru en a pas, Volkswagen en a pas. Alors oui, t'as les voitures de luxe qui en ont quelques-unes.
C'est ça. T'as Chrysler, t'as chez Fiat. La Fiat 500 se fait en convertible.
Ouais, mais là, on parlait de pouvoir d'arrêter peut-être la distribution de la Fiat 500 en Amérique du Nord en 2020.
OK, ben là, on est tous bien de retirer Fiat de l'Amérique du Nord puis juste dire que ça n'a pas marché parce que ça a rendu lourd.
Ben, moi, je m'en vais là, dans 2 semaines essayer la nouvelle Fiat 500X avec le nouveau moteur.
Okay.
Mais juste pour information, la 500X, ils en ont vendu 8 depuis le début de l'année, puis ils ont vendu 20 500L, ou le contraire, là, mais c'est dans ce coin-là.
Ouais, c'est pas des gros vendeurs, les gens vont pas nécessairement là. Puis tu sais, tant qu'à avoir un 500X, va te chercher un Jeep Renegade.
Ouais, effectivement.
Au moins, t'as la badge Jeep dessus. OK, c'est bon. Donc parfait, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. T'as essayé une voiture... qui sort du lot, une voiture dont il n'y a pas beaucoup de compétition sur le marché. La Subaru BRZ en version Rayou.
Oui, Rayou. Ouais.
Est-ce qu'elle fait des Hadouken? Parce que Rayou, ça ressemble au nom du combattant dans Street Fighter qui fait des Hadouken. Non.
Tu sais que t'es en dehors de ma culture. Là.
Ouais, OK. Okay.
Alors, moi, Street Fighter, là, je jouais dans le temps que c'était... les vieux... Là. Tout pixelisé, là.
Oui, oui, ça date des années 80, fin des années 80, début des années 90, quelque chose comme ça. Là.
C'est ça, mais je me souvenais pas du nom des je suis désolé, là.
Des Hadouken. C'est bon, on peut continuer. C'est donc, BRZ, qui est une voiture et non pas un combattant dans Street Fighter.
Et Rayu, ça veut dire orage en japonais, en passant.
OK.
Je sais pas exactement comment ça se prononce, là. Évidemment, on prend un peu de liberté avec le japonais, mais c'est ça. Écoute, dans les faits, c'est juste une BRZ. Hein. Je veux dire, on va se dire les vraies affaires, là. On n'a pas rien changé de majeur. Rien du tout au niveau de la mécanique.
Ouais.
OK?
Ouais,
C'est le même moteur, 4 cylindres, 2 litres, 205 chevaux, à piston opposé horizontalement, le fameux moteur boxer. Bon, avec un throttle électronique, avec. Bon, ça se garde. Il y a des différences, cependant. Toujours 205 chevaux. On aimerait un peu plus, on le dit chaque fois qu'on parle de la BRZ.
Ouais, surtout parce du couple. On aimerait surtout un peu plus de couple.
Oui, mais en même temps, tu sais, ça me fait penser à la MX-5, cette auto-là.
Ouais.
Le genre d'auto que tu n'es pas obligé de pousser à fond pour être capable d'avoir quelque chose d'intéressant.
Non, non, c'est sûr. Sauf t'sais, que la dernière mouture, la petite amélioration qu'ils ont faite à la MX-5 dernièrement est juste assez pour la rendre un petit affaire plus excitante.
Oui.
La BRZ puis sa version Toyota, ils n'ont rien fait avec, là. Ils n'ont rien amélioré encore, là. Ça serait le temps, un petit
non,
peu.
Sauf que ce sont des voitures qui sont tellement le fun à conduire.
J'avoue.
Des voitures qui collent à la route. Là, bon, dans le cas de la Rayou, elle est officiellement manuelle. Donc, c'est une boîte 6 vitesses avec des rapports courts. Ça permet vraiment de s'amuser au niveau des changements de vitesse. Ça permet vraiment d'avoir une transmission qui est bien étagée. Différentiel à glissement limité, parce qu'il faut rappeler que aussi que c'est la seule Subaru qui n'a pas le rouage intégral.
Oui, exact.
Ça, c'est important de le dire.
Ça serait intéressant, par exemple, une BRZ à traction intégrale. Mais
ça serait bien trop lourd.
Oui, mais bon,
ce qui fait qu'elle
rajoute un peu de puissance. Puis,
ce qui fait qu'elle est fun, c'est qu'elle pèse 2 livres et demi.
Oui, ouais, c'est sûr. C'est pas,
je veux dire, c'est...
Tu prends ça chacun de ton bord, puis tu l'embarques sur un camion.
Oh, ouais, c'est ça. Tu avais de bord, là. Ouais. Quand tu te stationnes, tu te mets au côté puis tu tires pour la ramener sur le bord du trottoir.
Ouais,
mais on exagère un peu, mais c'est effectivement une voiture qui est très légère, qui est très basse, qui est extrêmement profilée. Différentiel, comme je l'ai dit, avec glissement limité, des freins Brembo vraiment performants. On a modifié aussi les suspensions, les amortisseurs Saxe, qui sont vraiment des amortisseurs de performance. Donc, on a vraiment tout ça et on a vraiment un comportement qui est plus agressif que ne le laisse penser la puissance de la voiture.
Okay, ouais.
J'avais eu l'occasion d'essayer la version standard, pas la Rayou, mais la version standard il y a une couple d'années sur une piste dans la région de Victoria. Et honnêtement, ce véhicule-là se comporte comme s'il était sur des rails, là. C'est un petit go-kart incroyable et c'est vraiment, vraiment le fun à conduire.
Ouais.
C'est vrai qu'on aimerait plus de puissance, mais en même temps, on n'en a pas tant besoin que ça. T'sais.
Non, non, c'est sûr.
Et bon, la Rayou, ce que c'est, ben, ce sont des affaires particulières, comme ils ont utilisé des esthétiques STI, là. Il y a des jupes latérales, des jupes avant, il y a un becquet arrière, là, un aileron en arrière. Il y a des roues, des jantes en acier foncé, les miroirs noirs. Tu sais, c'est vraiment, là, on est vraiment, vraiment dans l'esthétique purement. La couleur aussi, ça s'appelle gris kaki, mais en fait, c'est bleu pâle. En tout cas, moi, je la vois bleu pâle. Donc, c'est vraiment une voiture qui essentiellement au niveau du look, est absolument intéressante, agréable. C'est sûr, c'est une voiture sport, OK? On se dit les vraies affaires. Quand je m'installe à bord, c'est, comme je le dis souvent, plus graisseux que gracieux dans mon cas. Parce qu'il faut vraiment que tu te laisses tomber dedans. Là. C'est vraiment très bas.
Ouais,
une
ouais.
fois installé, tu as une position de conduite qui est impeccable. Et je le répète, ce qui me fascine de cette voiture-là, c'est la tenue de route. Tu n'es pas obligé de rouler vite, mais tu peux prendre des virages de façon un peu dynamique et ça va t'amener vraiment à un autre niveau de conduite. Ça, c'est la partie qui est super intéressante.
Ouais, elle est facile à faire déraper, mais elle est facile à ramener aussi. C'est une voiture qui peut être très, très amusante quand on sait un peu ce qu'on fait, là.
Exactement, exactement.
Ouais.
C'est une voiture qui est amusante, c'est une voiture qui est agréable, c'est une voiture qui est vraiment, vraiment cool, que moi, j'adore en tout cas, au niveau de la conduite. Elle a des défauts, elle n'essaye même pas d'asseoir quelqu'un en arrière. C'est vraiment...
ouais, j'ai essayé la dernière fois, ça n'a pas été...
Ah non, non, écoute, moi j'haïs pas personne assez pour l'asseoir en arrière, c'est clair.
Ouais.
C'est vraiment, il n'y a pas de place. Moi, l'ergonomie de l'interface multimédia de Subaru, là, je suis pas un fan. OK? Je trouve ça très, très ordinaire.
Ouais, c'est pas super, mais même dans la BRZ, puis même dans la version Toyota, on dirait que la radio a été rajoutée là comme à la dernière minute. Ça a l'air, tu sais, pas super bien intégré. Ça, on dirait dans les années 80, quand on s'achetait un radio Pioneer, là, puis on remplaçait l'auto, la radio d'auto un peu bas de gamme qu'on avait à l'achat, là. Ça ressemble un peu à ça, là. C'est pas aussi bien intégré que dans les autres modèles.
Non, effectivement.
Ouais.
Effectivement. Alors, ben, c'est sûr que c'est pas. Ça, c'est le côté un peu désagréable. Par contre, je dois dire que la qualité de finition est intéressante, surtout sur la version Rayou avec les sièges en Alcantara, là, en Suède, là. Tu sais, le siège, le cuir en Suède, là, genre.
Du cuir en Suède, ouais, c'est ça.
C'est ça. Non, non, mais c'est pour te faire une blague, mais tu sais ce que je veux dire. C'est juste le nom snob. Mais c'est un véhicule qui est joli. C'est un véhicule qui est vraiment très, très agréable en conduite. 38 000 piastres pour la version Rayou, ce qui n'est pas vraiment donné, on
Non,
s'entend.
c'est pas donné. Mais même de base, par exemple, je pense que la Subaru est un peu plus chère que la Toyota, c'est-tu possible?
Ouais, mais elle arrive mieux équipée.
Ouais,
Là.
c'est
C'est
ça. Ils ont fait
vraiment une question.
quelques
C'est bonnet blanc
différences.
par bonnet, là, c'est vraiment la même chose. Mais on part à 27 995, ce qui est quand même relativement raisonnable. La Rayou est à 34 000 $, mais bon, celle que j'avais était plus à 38, là. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est une voiture, c'est un beau jouet. C'est un jouet agréable sur tous les types de routes. Alors, moi, j'ai adoré ça. Fait que j'aime beaucoup cette voiture-là, juste un peu cher à mon goût. Mais pour le reste, c'est vraiment une voiture qui, contrairement à tout le monde, là, je pleurerai pas parce qu'elle manque de puissance.
Non, non. Mais c'est une voiture aussi qu'il faut peut-être penser à remiser l'hiver. Je l'ai
Ah ben
essayé. Je l'ai essayé l'hiver, c'est quand même plaisant, mais j'avais des pneus d'hiver, puis aussitôt que j'ai pogné un peu de glace, là, ça vient un peu plus problématique. C'est faisable, mais c'est pas pour ceux qui ont peut-être un problème cardiaque. Parce que
Ouais,
ça peut se
puis sans
ramasser
vouloir.
dans le champ assez vite.
Puis tu sais, je m'excuse, mais avec ma shape, là, et rajoute là-dessus un gros manteau d'hiver, là, je suis pas sûr que je suis tant confortable que ça à l'intérieur.
Ouais, c'est ça. C'est un peu limite, mais ça reste une magnifique voiture.
Ouais, et une voiture qui, y a vraiment attiré. Elle attire les regards toutes les fois que je la conduis, là.
Oui, le design est vraiment incroyable. La coupe de cette voiture-là est super belle,
Effectivement.
là. C'est un fait. Donc, c'est parfait.
Toi, t'es allé dans le plus discret, mettons.
Moi, je suis allé dans l'économique. J'ai la Nissan Leaf Plus cette semaine. Donc, la Leaf Plus, c'est la Leaf avec plus d'autonomie. Donc, c'est la nouvelle version de la Leaf avec une batterie de 62 kWh au lieu de 40 kWh. Juste pour vous dire, ma Leaf à moi, ma 2013, a une batterie de 30 kWh. Donc, c'est le double. Donc, c'est vraiment drôle parce que moi, je fais environ 60 km pour aller travailler, 60 km pour revenir de travailler. Donc, environ, j'arrondis, 120 km par jour. Avec ma Leaf, c'est limite. Je pars de la maison, elle me donne 130 km d'autonomie, j'embarque sur l'autoroute, elle me dit qu'il me reste 105. Et puis après ça, c'est du devinomètre tout le long. On ne sait pas vraiment combien de kilomètres qu'on va avoir un coup rendu à destination. Souvent, ça se replace, on n'est pas payé. J'arrive à 50% de ma batterie. Normalement, juste assez de kilométrage pour pouvoir revenir à la maison. Je la branche au travail sur le 110 volts. Elle a la chance de remonter pendant la journée. Des fois, elle est pleine quand je pars le soir. Donc, il n'y a pas vraiment de problème, mais j'ai pas le choix. Faut que je la branche. L'hiver, ça serait extrêmement problématique pour moi d'aller travailler et de revenir avec. Ça serait pas faisable sans la charger. Et même en la chargeant, ça serait probablement assez pénible. Avec cette voiture-là, je l'ai eue lundi, comme on a les voitures le lundi. Elle n'était pas pleinement chargée, mais ça, c'est pas grave. Elle était à peu près à moitié. Il n'y a quand même aucun problème. J'ai décidé de faire d'arriver au bureau. Je l'ai pas branché. Après ça, je suis revenu, je l'ai branché à la maison. Je suis parti avec une charge pleine. Je suis retourné travailler le mardi. Je l'ai branché au bureau juste parce que, ben, quand on se branche, on est juste à côté de la porte d'entrée. Donc, je l'ai branché, même si je n'avais pas vraiment besoin. Mais j'ai décidé qu'après ça, je ne la rebrancherais plus. Je suis revenu mardi, j'ai fait mon retour. J'avais comme 380 km d'autonomie quand je suis parti. Je suis revenu à la maison, j'ai fait mon petit promenage le soir. Mon fils a du soccer, je suis allé au soccer, je suis revenu. Je suis allé me promener un petit peu mercredi dans la journée, mais j'ai travaillé de la maison, donc j'ai pas fait mon kilométrage normal. Et jeudi, j'ai refait un aller-retour. Je me suis stationné à l'arrière du bâtiment, je l'ai pas chargé. J'ai fait mon aller-retour, je l'ai stationné en revenant à la maison hier soir, jeudi. Et puis ma femme est partie travailler avec ce matin et je l'ai toujours pas rechargé. Et puis j'avais encore, je pense, comme 160 km d'autonomie ce matin quand ma femme est partie avec. 140, 160 dans ces eaux-là, là. Donc, c'est une voiture qui offre beaucoup d'autonomie. On est rendu là, là. On est rendu au point où qu'avec une voiture comme ça, qui offre 340, 350, on est rendu même à 400, là. Si j'éteins le chauffage, une batterie pleine, elle va me donner 400 km d'autonomie. On est rendu au point où c'est l'autonomie est de moins en moins un problème. Il y a rarement des gens qui vont faire plus que 400 km dans une journée. Oui, il y en a, je sais, il y a des gens qui travaillent sur la route qui vont avoir besoin de plus d'autonomie que ça. Mais rendu là, si tu fais tant de kilométrage que ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée pareil d'arrêter charger une petite demi-heure à un moment donné, puis de remplir ta batterie à moitié ou aux trois quarts pour t'en revenir ou pour continuer ta journée. Parce que si tu fais tant de millage que ça, tant de kilométrage que ça, tu dépenses du gaz. Donc, c'est une question d'adaptation, mais rendu à ça, 380-400 km d'autonomie, avec le confort que cette voiture-là offre. Là, c'est sûr et certain, moi j'ai le modèle le plus équipé, c'est la SL Plus. Elle vaut 50 000 ben 49 598 là. 498. On est 49 500, on n'est pas loin du 50 000. Il y a la SV Plus qui est juste une coche plus bas. C'est à peu près la même chose, mais pas de cuir avec des jantes différentes. Là, on tombe à 46 598. Si vous prenez la S Plus, qui est le modèle de base Plus, elle est à 43 998. Les trois voitures sont éligibles au rabais du gouvernement, donc le 8 000 $ du Québec, le 5 000 $ du Canada. C'est sûr, c'est le prix de la voiture plus les taxes moins les rabais. Ça serait le fun que ça soit le contraire, mais bon, le gouvernement veut son argent pleinement sur les taxes, sur les montants pleins et non pas juste sur le montant après rabais. Mais ça reste que ça peut devenir intéressant, mais ça, c'est à vous de voir. Votre kilométrage, combien de gaz ça vous coûte par mois. Je dis toujours aux gens que je connais, si vous vous magasinez un véhicule électrique, faites pas juste regarder le prix de la voiture, hein, 46 000 pour une auto. OK, ouais, OK, j'enlève 8 000, j'enlève 5 000, ouais, j'enlève 13, mais c'est encore cher. Mettez vos paiements d'essence aussi, puis votre maintenance en ouais, compte là, quand vous faites ça.
Le problème, c'est que ça ne peut pas se calculer comme ça. Là.
Ben, ça
le problème, c'est quand tu vas emprunter. Oui, mais quand tu vas emprunter pour un char, et là, je parle des gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter cash, là,
ouais.
qui sont 95 % du monde. Là.
Ouais.
Quand tu vas emprunter pour un char, là, je m'excuse, ils n'en tiennent pas compte.
Ou très peu. Ah oui, oui, tu parles du fait que tu n'as pas de...
Tu empruntes 45 000 tu n'empruntes pas 33 000 parce que ça va coûter moins cher de gaz.
Non, non, non.
45 000 ça, je suis d'accord avec toi de te dire que oui, en bout de ligne, dans ton budget, on le calcule comme ça. Le problème, c'est que les institutions financières, quand ils te prêtent, en tiennent très peu compte de ces éléments.
Oui, non, c'est d'accord, mais moi, je parle en tant que personne, c'est de le calculer dans votre budget. C'est sûr, certains côtés financement, ça reste que vous financez le plein montant, puis le fait que vous payez 500$ d'électricité, 600$ d'électricité par année au lieu de 2500, 3500$ de gaz, ça, la compagnie de financement n'en tiendra pas compte. Mais vous, il faut en tenir compte dans votre budget pareil pour justifier peut-être le passage vers une voiture électrique. Il y a encore le modèle Leaf pas plus qui existe. Il en reste une version, c'est la SV, donc c'est le milieu de gamme, qui est à 40 968. Ça, c'est celle que moi et Marc, on est allé essayer l'été passé.
Ouais.
On avait se promené pas mal. On parle à peu près de 240 km d'autonomie. Donc, si c'est suffisant pour vous, ben c'est encore. Faut calculer 6 000 $ de moins à peu près, un petit peu moins que 6 000 $ de moins qu'une SV plus. Faut calculer juste le même. La même version. Là. Si vous parlez d'une S, ben là, c'est juste 3 000 $ de moins, mais c'est pas le même équipement. Là. La S n'a pas le système pour garder votre voix, puis ce que Nissan appelle le Intelligent Mobility. Là. Il y a le E-pédale, la E-pédale est toujours là, puis la E-pédale, je vais revenir là-dessus, là. Mais il y a des technologies qui ne sont pas dans le modèle S. Justement, la E-pédale, c'est extraordinaire, ça devrait exister sur toutes les voitures. C'est la possibilité de conduire à une pédale. C'est de jamais toucher au frein. La voiture va être plus agressive pour ralentir. Elle va ralentir plus. Puis un coup, ça prend à peu près, tu sais Marc, on l'a essayé, ça prend à peu près quoi? 10 minutes. Puis on est capable de gérer nos arrêts complets à des feux rouges, à des arrêts, juste en levant le pied de l'accélérateur puis en arrêtant exactement à la ligne blanche, à un stop ou à une lumière rouge. C'est hyper facile de s'adapter. Et une fois qu'on l'a, c'est merveilleux. J'étais pris dans le trafic hier pour m'en revenir sur la 40 parce qu'il y avait un accident. J'ai jamais eu besoin de changer frein, accélérateur. J'avais juste mon pied sur l'accélérateur, j'avançais un petit peu, je le levais, j'arrêtais. C'est vraiment super de la manière que ça fonctionne. On avait aussi eu la chance d'essayer l'espèce de système qui garde la voie, qui le régulateur de vitesse adaptatif et tout ça. C'est tout un système que Nissan a qui est vraiment super facile à utiliser. On l'avait essayé avec l'autre véhicule. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore avec ce véhicule-là parce qu'il faut se mettre vraiment sur l'autoroute, il faut se mettre sur le régulateur de vitesse, puis là, on embarque les systèmes. Mais ça fonctionne super bien quand on en a besoin. Il y a beaucoup d'espace, le coffre est grand, le coffre est profond. Nissan aussi fournit une borne qui est combo. Elle est 110 et elle est 240. Il y a un petit adaptateur au bout de la borne qu'on peut déclipper. Puis quand on déclippe, on a le connecteur pour le 240 volts. Et quand on embarque, on a un connecteur pour le 110. Donc on peut la mettre sur le 110, on peut la mettre sur le 240 aussi. Donc pour quelqu'un que tu sais, ah, j'ai pas le goût de payer un autre 700-800 $ pour une borne de recharge à la maison, c'est toujours possible de vivre avec la borne que Nissan fournit. Faut juste penser qu'à chaque fois, vous allez la brancher en arrivant à la maison, charger votre auto, le lendemain, l'enlever, la remettre dans le coffre et repartir avec. Si vous avez l'intention de charger ailleurs, si vous n'avez pas besoin de charger ailleurs, vous pouvez la laisser à la maison, mais sinon, il faut penser la porter avec vous. La Leaf Plus, franchement, j'aime beaucoup. J'aime ce que cette voiture-là offre. C'est spacieux à l'intérieur, c'est du confort. Oui, j'ai eu la chance de faire un tour en Tesla Model 3 et de l'essayer un peu, mais la Leaf est plus spacieuse. Le toit est un peu plus haut. En arrière, c'est un hatchback, donc on a plus d'espace. C'est vraiment une voiture où on s'assoit dedans et on a l'impression d'avoir, tu sais, beaucoup de place. C'est confortable à l'arrière, il y a de la place à l'arrière, il y a de la place à l'avant. On est vraiment tout équipé avec cette voiture-là. Caméra de recul et tout ça. Le système de divertissement Nissan est très bien. J'ai aucun problème avec ça. Connecter un téléphone par Bluetooth ou une clé USB pour écouter de la musique, des podcasts et tout ça, ça se fait super bien. C'est vraiment un très bon véhicule. J'aime beaucoup. Il me reste encore quelques jours avec. Je pense que je vais aller me promener un peu en fin de semaine parce que je peux. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais essayer de mettre un peu de kilométrage dessus pour. Tu sais, parce que je peux, là. J'ai 380 km d'autonomie si je fais un peu attention.
Je refais mon
On peut
deck de
aller à quelque
piscine
part.
si jamais.
Hein?
Je refais mon deck de piscine si ça te tente,
Ben, ouais, mais ça me tente pas tant que ça de rouler
là.
jusqu'à Saint-Hyacinthe, là. T'sais, rouler pour aller prendre une bière, c'est quelque chose. Rouler pour aller faire un deck de piscine. Si j'ai un deck à faire, moi aussi j'en ai un à faire dans ma cour. Mais c'est super bien. Comme j'ai dit, il y a des prix différents. 43 998 pour la S+, 46 598 pour la SV+, puis 49 498 pour la SL+. La S a presque tout. L'autonomie, le e-pédale, le chargeur rapide, ce qu'il n'y avait pas sur les anciennes S, on n'avait pas le chargeur rapide, elle l'a sur celle-là. Donc, ce que vous perdez, c'est vraiment le régulateur de vitesse adaptatif, puis la gestion de la voix et des choses comme ça, là. Pas la voix à télé, là, mais la voix quand vous conduisez. Mais pour le reste, je veux dire, c'est une voiture qui serait probablement suffisante pour la majorité du monde. Si vous voulez une voiture électrique, vous voulez de l'autonomie, mais tu sais que la voiture se conduise tout seul pour vous, c'est pas quelque chose de super important. La S Plus est probablement un très bon rapport qualité-prix, surtout après les rabais et tout ça. Ça devrait être assez intéressant. Fait que c'est pas mal ça.
Ben c'est bien, mon cher.
Ouais.
C'est très bien.
Ma conjointe est partie avec un matin puis elle était bien contente. Le gros sourire dans le visage en partant parce qu'elle la trouve belle. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus cute que notre Leaf à nous, là, que les yeux de crapaud en avant, là. Dans le temps, c'était drôle, je disais la Zoé, c'est la petite cousine cute de la Leaf, là, mais la nouvelle Leaf, elle s'est refaite.
Oui, non, elle a changé de look un peu, là.
Très,
Marc,
très
c'est pas du
gentil.
luxe, là, mais
Ouais. Non, non,
effectivement.
c'était quelque chose de nécessaire, là, mais ça a presque l'air d'une voiture normale aujourd'hui. Ils sont durs à distinguer. Avant, c'était facile. Aujourd'hui,
Ouais.
entre ça puis une Versa ou quelque chose comme ça, c'est vraiment la trappe et l'espèce de calandre en avant qui est pleine et bleu brillante, un peu diamantée, là, puis la trappe de recharge. Mais à part de ça, c'est pas mal la même forme à l'avant que les voitures plus récentes de Nissan. Donc, elles se font un peu plus dans le lot. Fait que c'est bien, si ça vous intéresse, allez essayer ça, sauf que bonne chance pour vous en commander une, parce que depuis que le rabais du gouvernement canadien est arrivé, c'est plus difficile. Ça a l'air qu'il y a comme 10 mois d'attente, quelque chose comme ça, pour beaucoup de voitures électriques, là. Fait que faut se décider rapidement. Donc, c'est pas mal tout, Marc. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela, mon cher?
Ben écoute, ma page Facebook, Marc Bouchard, celle de Ça roule radio, bien entendu aussi. Je répète, j'invite les gens à t'envoyer des messages ou à notre courriel commun, info@saroulradio.com, auquel tu as toujours accès, bien entendu. On peut aussi me suivre sur Twitter, Marc souligné Bouchard, ou le contraire, Bouchard souligné Marc sur Instagram. Je le répète, info@saroulradio.com, c'est notre adresse courriel. Et toi, mon cher, on t'a rejoint où?
Sur Twitter, @Ascalazormo. J'ai aussi un autre podcast techno. Si vraiment il y a quelque chose et vous ennuyez d'entendre ma voix, vous pouvez m'écouter sur Réalité Augmentée, qui est disponible. On a une page Facebook aussi qui est Réalité Aug. Donc, vous pouvez me rejoindre là si ça vous intéresse. Sur Twitter aussi, on a Réalité Augmentée ou Réalité Aug. Parce que Réalité Augmentée, c'était pris. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que peut-être parce que c'est populaire. Sinon, j'ai j'ai un canal YouTube où je mets des vidéos de temps en temps. Donc, c'est Luc Desormeaux. Et sur Facebook, c'est Luc Desormeaux aussi. Donc, venez si vous voulez me suivre ou si vous voulez m'ajouter comme ami, essayez-vous. Des fois, j'accepte, des fois, j'accepte pas. C'est sûr que certain que si vous avez une photo d'un super modèle européen avec un nom de gars, il y a des chances que j'accepte pas. Mais si ça a l'air correct, votre compte, il y a des bonnes chances que je vous accepte. Donc, j'en reçois de temps en temps, c'est comme non. Donc, merci.
Fait que des photos de gars en chest, tu dis non, c'est ça?
Ouais, gars en chest ou. Il y a certaines choses que je me dis, non, pas vraiment. Mais normalement, je suis plutôt tolérant et c'est pas si pire. Mais des fois, c'est juste comme trop évident que c'est un faux compte. Là. Mais c'est juste drôle quand tu vois un faux compte. C'est évident que c'est un faux compte puis que le seul ami qui se faux compte-là est quelqu'un que tu connais. C'est des fois, c'est un peu déstabilisant, mais bon.
Il y a des gens comme ça partout. Mon fils se cherche un appartement dans la région de Montréal actuellement. Et si tu voyais les offres qu'on lui fait, là, c'est incroyable. Là. Un missionnaire qui est actuellement dans la région de Chicago, mais qui a un appartement à Montréal. Fait que si tu lui envoies le premier mois de loyer, il va t'envoyer les clés par la poste.
Ah, bien sûr, oui. Fait que t'envoies le premier mois de loyer et il n'y a jamais de clé qui arrive. Mais bon.
De toute façon,
il faut pas que tu te fasses avoir. Faites attention.
Non, exactement.
Ouais. C'est comme ceux qui se sont fait avoir avec les affaires de Desjardins. Là. C'est pas sur le sujet, mais vu qu'on parle de fraude, là. Desjardins vous enverra pas un courriel, vous envoyez une lettre par la poste. Je pense pas qu'ils vont vous appeler non plus à la maison. Vous envoyez un message texte par la poste. Donc, laissez-vous pas avoir. Donc, c'est bon, Marc. Merci. Encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Merci à tous ceux qui me suivent depuis 2013. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent depuis ce temps-là. Je reconnais vos noms quand vous aimez les posts sur Facebook et des choses comme ça. Merci vraiment à vous. Ça m'a fait un grand plaisir d'animer cette émission pendant toutes ces années.
Merci à toi. Je répète, merci à toi d'avoir créé le podcast Auto. Merci d'avoir contribué pendant autant d'années. Puis c'est clair qu'on va te ramener, ça ne sera pas long.
On verra ce que ça donne dans le futur. Donc, merci à tous, puis faites attention à vous. On se reparle une prochaine fois. Bye tout le monde.
Bye bye.